Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques.
Et ce matin, Julie, vous revenez sur la relation historique entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite.
Oui, relation que l'équipe de Joe Biden a décidé non pas de rompre, mais de recalibrer, selon les mots du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Joe Biden n'aura plus de contact avec le prince héritier, Mohammed Ben Salman, mais traitera directement avec son père, le roi Salman. Conséquence de la publication par les renseignements américains d'un rapport qui désigne clairement le premier comme le commanditaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi il y a 3 ans. Depuis le 14 février 1945 et la rencontre dite du Quincy entre Franklin Roosevelt, tout juste rentré de la conférence de Yalta, et le premier roi d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Al Saoud, les relations entre les deux pays ont été plus complexes qu'on a tendance à le croire. Bonjour Anne Gadel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes l'ancienne directrice générale de l'Institut Open Diplomacy et vous collaborez notamment avec l'Institut Montaigne sur les questions de politique étrangère. Alors de quelle manière cette rencontre organisée juste après la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas elle n'est même pas terminée, on est en février 45, ce pacte, alors il y a débat sur le mot pacte, ce pacte du Quincy lie l'Arabie Saoudite et les États-Unis.
Oui, vous avez raison. On parle du pacte du Quincy. Il est scellé, en tout cas la légende dit qu'il est scellé en 1945, en marge de la conférence de Yalta. Et à l'agenda de cette rencontre auraient été discutées donc les questions régionales, donc de la Palestine, du Liban, de la Syrie, et puis aussi les questions pétrolières. Comme vous l'avez dit, on parle d'un pacte, mais en réalité, il faut plutôt considérer ça sous forme de métaphore, une métaphore qui regrouperait en réalité un ensemble de discussions et d'accords entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis entre les années 30 et qui aboutissent en 1951 à la signature de l'accord de défense mutuelle. Et donc ce pacte qui regroupe cet ensemble de discussions et d'accords formalise donc une alliance stratégique très très forte entre les deux pays qu'on peut résumer en allant assez rapidement par les États-Unis défendent l'Arabie Saoudite. En contrepartie, les États-Unis pourront s'approvisionner en pétrole bon marché et continuer d'exploiter les réserves de pétrole saoudiennes via la société Aramco.
Voilà, comme vous le dites, c'est allé un peu vite puisque c'était déjà le cas. L'Arabie Saoudite avait accordé des concessions dès les années 30 à une compagnie californienne. Voilà, il faut dire, Anne Gadel, que avant 42, les troupes américaines avaient installé une base militaire en Arabie Saoudite pour assurer l'approvisionnement logistique de l'Union soviétique, le corridor persan qui met fin au monopole militaire britannique d'ailleurs dans la région. Pendant la guerre froide, en revanche, États-Unis et Arabie Saoudite seront des alliés objectifs contre le communisme. Comment ?
Oui, tout à fait. En fait, on voit dès le départ que le pacte qui se scelle entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, c'est plutôt une convergence objective d'intérêt à un moment donné. Mais pendant la guerre froide, ils sauront être des alliés objectifs contre le communiste, des alliés qui se sont retrouvés liés par une détestation et une peur commune des communistes. Et vous l'avez souligné, c'est à cette époque-là que la base de Dahran constitue vraiment un atout stratégique des États-Unis contre les soviétiques dans la région. Et l'Arabie Saoudite est vraiment le pilier de la stratégie des États-Unis contre les communistes, à tel point que le roi Saoud a été invité, c'était le premier monarque saoudien à être invité en visite officielle aux États-Unis en février 57. Ça n'est pas passé inaperçu aux yeux de la communauté internationale. Et on peut noter... Pardon,
je vous en prie, Anne Gadel.
On peut noter pendant la guerre froide, on va dire deux phases assez importantes pendant lesquelles l'alliance entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis a été significative. Dans les années 60, avec l'arrivée du roi Faisal, suite à la destitution du roi Saoud, le roi Faisal était vraiment le champion de la promotion du panislamisme contre le communisme et contre le nasserisme. Il faut rappeler que Gamal Abdel Nasser, donc le leader égyptien, était soutenu par les soviétiques et faisait de l'ombre à l'Arabie Saoudite en tant que champion du monde arabe. Ça, c'est la première phase. Et puis, on peut noter une deuxième phase à partir de 79, avec concomitamment le triomphe de la révolution iranienne, avec l'imam Khomeini qui visait en particulier la dynastie saoudienne qu'il qualifiait d'impie et de corrompue, et puis la guerre en Afghanistan. Et à ce moment-là, le rôle de l'Arabie saoudite devient extrêmement important. Les revenus pétroliers de l'Arabie saoudite sont mis à contribution dans la guerre contre le communisme. Et il y a même beaucoup de Saoudiens qui sont envoyés en Afghanistan pour combattre les Soviétiques.
Voilà. Sauf qu'entre-temps, il y a le choc pétrolier, le premier choc pétrolier en 1973. Et ne dit-on pas qu'il a été provoqué par l'Arabie saoudite. Et évidemment, il a mis à mal l'économie américaine et pas seulement, et a contribué à mettre fin aux Trente Glorieuses.
Oui, on parle du choc pétrolier, du premier choc pétrolier. Et comme vous le dites, la relation entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, bien qu'étant une relation d'alliés et de partenaires, n'a pas été toujours fluide. Et en fait, le point d'achoppement principal entre ces deux partenaires, ça a été très très longtemps la question palestinienne. Il faut rappeler que pendant la guerre des six jours, donc en 67, le soutien américain à Israël, qui a permis la victoire d'Israël sur les Arabes, le roi Faisal en a conçu vraiment une très grande amertume. Le royaume saoudien avait lancé plusieurs fois des avertissements aux États-Unis concernant la situation régionale, à tel point qu'en 1973, au moment de la guerre de Kippour, quand Israël est de nouveau aidé par son allié américain, donc en étant ravitaillé par un pont aérien, là c'est la goutte d'eau. Et finalement, les pays membres de l'OPEP, dont l'Arabie saoudite fait partie et était en quelque sorte leader, décident d'augmenter le prix du baril et de réduire la production, donc faisant exploser les cours du baril, qui passent de 2 à 17 dollars. Et oui, ça crée le premier choc pétrolier, et les économies occidentales sont très très fortement touchées.
Et si le roi Faisal et ses successeurs en ont tant voulu aux États-Unis, c'est justement parce que sur le Quincy, cette rencontre entre Roosevelt et le roi d'Arabie saoudite, eh bien Roosevelt avait promis que lui, président des États-Unis, ne ferait rien pour aider les Juifs contre les Arabes en Palestine, mais évidemment il ne pouvait pas répondre des débats au Congrès ou des décisions de ses successeurs. Alors le pétrole, arme commerciale et politique, menacé directement quand Saddam Hussein envahit le Koweït, voisin de l'Arabie saoudite en 90, quelle part, rapidement Anne Gadel peut-être, quelle part chiffrée a pris l'Arabie saoudite dans la coalition internationale menée par les États-Unis pour chasser Saddam Hussein et ses troupes du Koweït?
Oui, donc évidemment, les États-Unis ont utilisé la base de Dahran comme base pour mener leur offensive. Et les dépenses militaires ont été en très grande partie, voire entièrement, couvertes par l'argent saoudien. Et on estime cette part à de 50 à 55 milliards de dollars. C'est pour ça qu'en réalité, à l'issue de la guerre du Golfe, les finances de l'Arabie saoudite ont été très très atteintes et on en ressent encore les conséquences.
Voilà, la guerre du Golfe qui acte par ailleurs le divorce entre l'Arabie saoudite qui va accueillir les troupes américaines sur son territoire et Ben Laden qui était jusqu'à présent soutenu par le royaume saoudien. 10 ans plus tard, le premier vrai tournant dans la relation américano-saoudienne, c'est le 11 septembre avec ses 15 terroristes saoudiens sur 19. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une éventuelle implication du régime saoudien dans les attentats qu'Obama niera en 2016, en tout cas en refusant qu'une loi soit votée qui aurait autorisé les poursuites contre l'Arabie saoudite?
Oui, vous avez raison. Le vrai tournant, c'est le 11 septembre. Vous l'avez rappelé, 15 des 19 terroristes étaient saoudiens. À partir de ce moment-là, dès lors que Al-Qaïda est censée être une organisation mondiale présente dans plus de 60 pays, il est assez, ça interpelle quand même pas mal les Américains de constater que 15 des terroristes étaient saoudiens. Donc à partir de ce moment-là, beaucoup de la confiance qu'il y a les deux partenaires se délite, à tel point que Washington évacue les derniers soldats américains de la base de Dahlan et puis se recentre un peu sur la base qatarienne d'Al Udeid. Il y a en effet beaucoup de faisceaux de suspicions qui convergent vers une implication des dignitaires saoudiens. Vous l'avez rappelé, Barack Obama a un peu, en quelque sorte, protégé l'allié saoudien au moment où au Congrès allait être voté tout un tas de mesures visant à dévoiler, à déclassifier des rapports les mettant en cause. Mais il faut simplement, peut-être à ce sujet, rappeler que, évidemment, des dignitaires saoudiens peuvent et ont très certainement été impliqués, mais il ne faut pas totalement superposer le salafisme wahhabite promu par le royaume saoudien et le terrorisme djihadiste. Il faut à cet égard rappeler que le royaume saoudien est première victime du djihadisme et a même développé une obsession de la lutte contre le terrorisme. Et on l'a vu notamment lorsque MBS, Mohamed Bin Salman, est arrivé au pouvoir, mais peut-être qu'on pourra développer ça un petit peu plus tard.
Eh bien, en fait, on arrive à la fin de l'émission, Anne Gadel. Donc, en deux mots, Joe Biden ne veut plus traiter avec Mohamed Bin Salman. Il va traiter avec le roi Salman, son père. Donc, est-ce que c'est quelque chose que le roi Salman peut accepter? Et puis, il est vieux. Il est âgé, le roi Salman.
Alors, oui, le roi Salman est âgé. C'est pour cette raison qu'il a, en quelque sorte, mis sur les rails son fils Mohamed Bin Salman. En réalité, je pense que ça va être assez difficile de marginaliser durablement MBS parce qu'il concentre tous les pouvoirs. Il est prince héritier, il est ministre de la Défense. Il concentre aussi des pouvoirs économiques très forts entre ses mains. Le roi Salman va bientôt certainement nous quitter. Donc je pense qu'à terme, en réalité, les États-Unis n'auront d'autre choix que de reprendre langue directement avec MBS, notamment parce que c'est lui qui a les clés de pas mal de crises dans la région. En premier lieu, la guerre au Yémen, qui semble être une priorité à régler pour l'administration américaine.
Voilà, États-Unis, dont on verra si leur moindre dépendance au pétrole aujourd'hui, grâce au gaz de schiste, pourra alléger cette relation pesante avec l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Anne Gadel. Je rappelle que donc, vous êtes analyste spécialiste du Moyen-Orient et que vous collaborez notamment avec l'Institut Montaigne sur les questions de politique étrangère.